Comme ça, elle ne sortait pas la nuit. On pouvait les surveiller.
Alors, c'est un groupe d'animaux qu'on appelle les chiroptères, chiroptères ou chiroptères.
Oui, chiroptère, effectivement. Bah, chiro, ça vient du mot, ça veut dire main, en fait. Ptère, ça veut dire aile. Donc, en gros, c'est des animaux qui volent avec leurs mains. Donc, imagine, on prend nos mains à nous, hein, c'est à peu près le même squelette que nous en plus petit. Tu allonges les doigts, les phalanges des doigts, tu les allonges, et entre ces phalanges, tu mets une peau très très fine, qu'on appelle du patagium. Et du coup, ça permet d'avoir une aile. Et c'est le seul. C'est les seuls mammifères volants au monde.
Mais quand on se balade et qu'on voit des chauves-souris, on a l'impression que c'est toute, c'est la même espèce, quoi. Il y a plusieurs espèces.
Oui, alors en Normandie, on a 21 espèces, dont certaines qui sont difficilement différenciables, comme les plus petites, par exemple les pipistrelles.
Ah oui, c'est celles qui se mettent derrière nos volets.
Ouais, et bah tout à fait. Bah, figure-toi qu'en Normandie, on a 4 espèces de pipistrelles qui ne dépassent pas la taille d'un pouce.
Alors, il y en a d'autres ?
Ouais, on a 8 espèces de murins, dont la plus grande est la plus grande de nos chauves-souris, c'est le grand murin, et qui a une envergure, elle, pour le coup, de 40 cm.
Ouais, mais enfin, on est loin du renard volant qu'on peut voir en Asie ou bien à Biotropica. Lui, il fait plus d'un kilo et il a 1,50 m d'envergure.
Oui, c'est sûr, mais elles ne sont pas moins originales. Pour autant, on n'a pas le temps de toutes les énumérer, mais je ne peux pas ne pas vous parler de l'oreillard. C'est une chauve-souris avec des oreilles disproportionnées qui lui permettent de localiser ses proies, même quand elles sont posées.
Mais c'est quoi les proies ? C'est quoi leurs proies ? Elles mangent quoi, ces bestioles ? Moi, je connais l'histoire des vampires, les chauves-souris qui sucent le sang des mammifères. Là. C'est pareil chez nous ?
Alors non, en Normandie, nos petites chauves-souris sont uniquement insectivores. Par contre, les vampires existent bel et bien en Amérique du Sud. On est loin du conte de Dracula. Hein. C'est une mini chauve-souris qui fait une petite incision sur une patte de vache ou d'un cheval pour y prélever quelques gouttes de sang.
Mais alors, ces petites bestioles, si elles mangent des insectes, en hiver, elles n'ont plus rien à manger. Donc c'est soit l'hibernation, soit la migration, comme nos petites hirondelles.
Exactement. Et bah, figure-toi qu'il y a une des chauves-souris qui a une stratégie aussi de migration, c'est la pipistrelle de Kull. Et elle détient même le record de distance parcourue en migration pour un mammifère, qui est 2000 km.
Oui, mais enfin, tu nous confirmes que c'est exceptionnel. La plupart des chauves-souris ne migrent pas. Elles hibernent, comme tu nous l'as bien expliqué avec Oscar, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est la plupart des chauves-souris qui hibernent, ouais.
Ceci dit, une migration de 2000 km pour quelques grammes, c'est quand même assez fou.
Carrément.
Mais qu'est-ce qu'il en est de sa reproduction ? Elles font, c'est comme les souris, elles font plein de petits ?
Eh bien non, de ce côté-là, la petite chauve-souris, elle porte pas bien son nom. Hein. Une femelle ne fait qu'un petit par an, et pas forcément tous les ans. Et l'hibernation impose une faculté hors du commun.
Bah, j'imagine qu'une gestation pendant l'hibernation, quand il fait froid, ça demanderait trop d'énergie. Alors comment ça se passe ?
Eh bien, la période d'accouplement a lieu à l'automne. Une fois fécondée, la femelle bloque la fécondation ou le développement de l'embryon jusqu'au printemps suivant. Ainsi, à la sortie de l'hiver, on ne perd pas de temps. Le développement du futur petit reprend directement.
Extraordinaire. Mais dis donc, ça prend combien de temps tout ça ?
Alors, la gestation a un peu plus de 2 mois et la mise bas a lieu vers mai-juin. Et pour ça, les femelles se regroupent dans des combles ou des greniers en colonies de quelques dizaines à plusieurs centaines d'individus.
Et pourquoi elles se regroupent comme ça ?
Elles forment comme une nursery. D'une part, ça permet de maintenir facilement la température en cas de mauvais temps. En fait, elles se regroupent et comme ça, elles se tiennent au chaud. Et en plus, elles se relaient pour surveiller les petits lorsque certaines d'entre elles partent chasser pour l'allaitement.
L'allaitement, bah oui, bien sûr, c'est des mammifères. Donc les femelles allaitent leurs petits. Mais jusqu'à quand ?
Alors, les jeunes deviennent autonomes vers le mois d'août, ce qui leur laisse tout juste le temps de faire un max de réserves avant de se mettre en mode hibernation.
Ah, on comprend mieux pourquoi elles sont toutes protégées.
Oui, et c'est pas une mince affaire, car elles utilisent une multitude d'habitats au cours de l'année. Et on pourra aller un peu plus loin dans les détails avec notre invité du jour dans la suite de l'émission.
Bonjour Pascal, mais dis donc, est-ce que c'est le même Pascal que celui qu'on a entendu dans le reportage ?
Oui, c'était lui que je parlais. Ouais.
Oui, bonjour à vous Alex, bonjour Philippe.
Donc c'est toi qui avais repéré les petits rhinolophes ?
Eh oui, c'était avec Alex. C'était une belle surprise ce jour-là. Et j'étais content d'entendre le reportage que Oscar nous a accordé là, pour avoir visité cette belle grotte d'à côté d'Evreux. Là. Voilà.
Je crois que tu fais partie du GMN, hein, c'est ça ?
Oui, le groupe mammalogique normand. Voilà.
C'est quoi ça ?
Alors, c'est une association hein, qui date de 1978. Alors, c'est intéressant parce que c'est une association normande. Avant qu'il y ait la Haute et la Basse Normandie, il y avait la Normandie entière. Et le GMN a toujours été normand. Il est installé en Normandie depuis 1978. C'est une association loi 1901 dont l'objectif est d'étudier les mammifères. Hein, comme son nom l'indique, c'est le groupe mammalogique. Mammalogique comme mamelle. Les gens demandent des fois, c'est quoi mammalogique ? Voilà. Hein. Et bien, tous les mammifères qui allaitent leurs petits, et donc il n'y a pas que les chauves-souris, bien entendu, il y a d'autres mammifères. On va voir les mammifères marins, on va voir les carnivores. Alors ce sont les mammifères sauvages, hein, parce que bien sûr, il y a également tous les mammifères qui sont élevés par l'homme, mais ça, le groupe mammalogique ne s'en occupe pas. Hein. Et donc, l'objectif de l'association, bah, c'est de protéger, en fait, ces animaux. Et pour les protéger, au départ, il y a une vocation d'étude par tout un tas de protocoles de suivi, dont je vous expliquerai tout à l'heure celui des chauves-souris, mais comme je le disais, on va avoir aussi des petits rongeurs, comme le muscardin par exemple. Et ben, pour le muscardin, on ne va pas du tout utiliser les mêmes techniques hein, que pour les carnivores, ou que pour les mammifères marins, ou que pour les chauves-souris. Quoi.
Ah oui, les mammifères marins, on avait eu un reportage où on était allé voir à Courseul les mammifères marins, c'était le GMN aussi.
Oui, c'est exactement. Ça, voilà. Le GMN, c'est un pan important de la vocation du GMN. Il y a aussi des mammifères que l'on appelle semi-aquatiques, comme par exemple, bah, je vais vous citer le ragondin, qui est une espèce exotique, mais aussi le campagnol amphibie, qui est un tout petit mignon mammifère aquatique, hein, par exemple. Et puis, bon, on a la loutre qui est plus connue nationalement et qui est présente dans le Calvados et dans l'Orne, mais qui commence aussi à revenir vers chez nous dans l'Eure, hein, notamment dans la rivière de l'Andel. Il y a eu des données, voilà, pour. Et puis dans la Rille. Hein,
elle fait son grand retour.
Voilà, c'est ça. Donc, ça, le groupe mammalogique est là pour documenter ça, pour suivre, écouter, etc. Et puis, bien sûr, sensibiliser les propriétaires, sensibiliser les mairies, sensibiliser également des gens plus jeunes. Hein. Et puis, transmettre ensuite les données, transmettre les informations dans tout un tas de cas de figure pour permettre que ces espèces-là soient bien prises en compte, soit par des propriétaires, mais aussi dans le cadre de projets plus importants. Des fois, il faut un peu se batailler, des fois, il faut un peu ferrailler, hein, parce que les projets, c'est pas toujours respectueux de la faune sauvage. Voilà.
Tout à donc, fait. Et du coup, toi, tu es bénévole et tu t'investis plus particulièrement sur les chauves-souris dans le secteur. Tu peux
oui,
nous en dire un peu plus ?
C'est ça. Alors, au départ, moi, je suis originaire de la Bourgogne, des Vosges, et puis j'ai parcouru pas mal le Limousin. Et j'avais eu l'occasion déjà de voir des chauves-souris, d'en entendre parler, mais c'était pas trop ma tasse de thé, on va dire. Hein, j'étais plutôt orienté sur la forêt, etc. Et puis, dans les années 2006, je suis arrivé à Évreux travailler pour le pôle Natura 2000. Et c'est comme ça que j'ai été en contact avec le groupe mammalogique normand dans le cadre de mon travail. Et j'ai été pris par cette connaissance des chauves-souris. Et je me suis engagé ensuite comme bénévole, comme tu l'as très bien dit, Oscar. Alex, pardon. je me suis engagé auprès du groupe mammalogique. Et mon expérience personnelle et la notion de alors ce qu'on appelle la concertation m'apporte beaucoup là-dedans, parce que du coup, il y a plein de choses à mettre en œuvre avec les différentes personnes, les différents propriétaires, les différents styles de gens qu'on rencontre, et c'est important. Quoi.
Et c'est voilà. Le cas, en fait, effectivement, il y a un lien qui est assez intéressant, c'est dans l'organisation d'un comptage hivernal, parce que tous les ans, tu co-organises un comptage hivernal dans le secteur d'Évreux, même du sud de l'Eure. Et là, effectivement, il faut rencontrer les propriétaires, il faut avoir l'accord des propriétaires et tout ça pour essayer d'avoir un suivi. À quoi ça sert ? Tiens, explique-nous à quoi ça sert un comptage hivernal.
Alors, le comptage hivernal, ça sert à voir un peu l'évolution des populations. Parce que, comme Oscar et toi, Alex, vous nous l'avez un petit peu suggéré là, dans le reportage, les chauves-souris, déjà, ben, elles volent dans la nature. Donc c'est assez, je parle dans l'année, hein, donc c'est assez difficile de savoir où elles se posent, où elles sont. En plus, les techniques pour les repérer sont compliqué, on appelle ça l'écolocation, donc il faut avoir un appareil spécifique, c'est très très compliqué, c'est voilà. Et en hiver, bah, pour la plupart, elles hibernent sur place ou pas très loin de là où elles sont dans l'année, et donc c'est un bon moment pour avoir une photographie, on va dire, des effectifs présents dans la grande région. Voilà. Alors, en Normandie, il y a à peu près une centaine de bénévoles hein, au groupe mammalogique normand qui sont assez actifs sur ce recensement-là, dont une cinquantaine qui font vraiment beaucoup de suivi comme on le fait. Hein, donc on constitue des petites équipes de secteurs, hein, le Pays d'Auge, le Cotentin, la vallée de la Seine, le Vexin normand. Et puis nous, ici, là, comme on est autour d'Évreux, et ben, on appelle ça le centre de l'Eure. Hein, alors c'est plutôt le sud et le centre de l'Eure. Et donc, on va essayer de regarder dans les grottes, comme vous nous avez emmené avec Oscar dans le reportage tout à l'heure. Donc, on suit une centaine de petites grottes, parce que dans le centre de l'Eure, c'est pas des très très grandes grottes, hein, on l'a bien vu avec celles que vous avez visitées.
On a plein de petits trous partout.
Voilà, ce sont souvent des toutes petites grottes où on va trouver bah, une dizaine, une douzaine, une quinzaine de chauves-souris, des fois moins, des fois plus. Hein. Alors il y a des plus gros sites hein, qui sont souvent l'objet de ce qu'on appelle les sites Natura 2000. Bon, Mont-le-Roger, Tillières, le Mont-Roberge à Vernon.
Où là, on avait été à la carrière Bapaume, non, une fois.
Oui, alors ça, j'en parlerai un petit peu après la carrière Bapaume, hein, parce que c'est différent. Et du coup, dans ces sites-là, on va avoir plusieurs centaines de chauves-souris. Et souvent, elles sont là protégées, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Et donc, on fait une espèce de photographie des effectifs et on compte, est-ce que ça évolue, est-ce que ça bouge ou pas d'une année sur l'autre. On voit les effectifs qui changent. Alors on fait, bien sûr, hein, ça vous me l'avez rappelé tout à l'heure dans le reportage, on fait très attention de ne pas les déranger. Si on fait ce suivi-là, c'est quand même ce qu'on appelle encadré par une dérogation espèce protégée, parce que les chauves-souris sont des espèces protégées.
J'en profite juste pour rappeler en fait que j'ai fait le reportage dans le cadre du suivi et pas à l'inverse. Je suis pas allé dans la grotte pour faire le reportage, c'est parce que j'ai été compter les chauves-souris dans cette cavité-là et j'en ai profité pour faire le reportage, mais du coup on n'y retournera pas, quoi. Faut pas s'amuser à essayer d'aller voir les chauves-souris régulièrement, parce que sinon vous allez déranger et causer quelques...
Voilà, oui, voilà, petite, c'est une bonne précision. Donc le groupe mammalogique en lien avec le ministère de l'écologie a vocation à faire ce comptage-là un peu tous les ans pour voir les évolutions. Et c'est comme ça que sur l'ensemble de la Normandie, on va compter entre 25 et 30 000 chauves-souris tous les hivers, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Ça dépend beaucoup. Souvent, on dit des conditions de froid. Hein. S'il fait très très froid, les chauves-souris vont avoir tendance à beaucoup plus rentrer dans les grottes.
Comme je l'ai évoqué un petit peu dans le reportage, il y a des chauves-souris qui normalement hibernent dans les arbres. Et quand il fait vraiment très 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 froid, c'est des chauves-souris qui vont se déplacer dans les cavités et que habituellement on voit pas forcément dans,
voilà,
dans
ça, les cavités. Le froid et aussi la tempête, comme on vient d'avoir. Hein. Quand il y a des grosses tempêtes, si vous êtes une chauve-souris et que vous logez dans un arbre à 5 mètres de hauteur et que l'arbre se balance partout, bah vous avez un peu envie quand même d'arrêter le manège et puis d'aller à l'intérieur. Donc là, c'est des moments où on trouve des fois des espèces qu'on ne voit pas trop le restant des autres années. Alors ça c'est important. Hein. Donc, et puis du côté d'Évreux, ben, là, c'est des cavités qui sont plus modestes. On va compter environ entre 1000 et 1500. Là, on arrive à augmenter parce qu'on est de plus en plus de bénévoles à faire ça. Et d'ailleurs, si ça vous tente, hein, si l'expérience vous tente, n'hésitez pas à aller sur le site du GMN, hein, faire un peu de publicité. www.gmn.asso.fr.
Hein. On le mettra sur notre podcast, on mettra le
et
lien.
Et puis il y a une petite adresse, gmn@gmn.asso.fr. Hein. GMN, je rappelle, groupe mammalogique normand. Hein. Voilà, pas changer les lettres. Alors, on fait ça pour compter. Et on fait ça aussi pour apprendre à respecter. Donc on fait des petites équipes, hein, de 3, 4 maximum. Si c'est une toute petite grotte, on va être un ou deux, quoi, maximum. Hein. Pour des questions aussi de sécurité, on ne reste jamais trop tout seul. Et puis, on va essayer aussi de regarder si les animaux sont, entre guillemets, en bonne santé, c'est-à-dire s'il n'y a pas des petites maladies qui peuvent arriver. Des fois, ils ont le nez blanc, on appelle ça, ou alors ils vont avoir des petites blessures ou des choses comme ça. Donc voilà, ça permet de regarder ça. L'autre élément, pourquoi est-ce que c'est important c'est pas toujours le cas dans tous les secteurs de Normandie, mais on essaie aussi d'avoir un contact avec les propriétaires. Les propriétaires, des fois, c'est des propriétaires forestiers. D'autres fois, c'est des gens qui ont une grotte derrière leur maison ou dans leur terrain. Et du coup, ils savent pas trop ce que c'est. Ils disent, les chauves-souris, alors ils n'ont pas trop peur que ça se prenne dans leurs cheveux, mais ils pourraient avoir tendance à dire, je vais boucher la grotte ou je vais faire tout et n'importe quoi dedans. Et du coup, nous, on essaye de faire passer un message. Écoutez, en hiver, les chauves-souris, elles ont besoin de cet espace-là pour dormir. Alors, on dit dormir, mais en fait, le terme exact, c'est la léthargie. C'est-à-dire qu'elles se mettent au ralenti complet, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, pour ne pas puiser dans leurs réserves de nourriture. Et donc, du coup, on leur dit, respectez un peu cet espace-là pour être tranquille avec les chauves-souris.
Et des fois, quand il y a des cavités qui sont visitées, ça arrive, des fois on voit des tags, on voit des choses comme ça, et des fois il y a des cavités qui sont beaucoup trop fréquentées, et qu'est-ce que met en place le GMN dans ce cas-là ?
Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. La première, c'est déjà de faire de la sensibilisation. Ça, c'est le GMN qui fait ça régulièrement en faisant passer des documents. Il y a des petites brochures de présentation.
De beaux posters.
Des beaux posters. Il y a aussi des petits films qui existent. On pourra peut-être donner le film sur le grand rhinolof, la vie de grand rhinolof, qui est vraiment sympa à voir. Et donc, on explique à ces propriétaires-là de respecter, mais tous les propriétaires ne sont pas toujours très très ouverts ou très compréhensifs. Alors du coup là, on rappelle que ce sont aussi un peu des obligations réglementaires. Et s'il faut aller plus loin, on peut passer des conventions avec eux, ou si ce sont des grottes vraiment très importantes, quand on sait qu'il y a des petits rhinolophes ou des grands rhinolophes qui viennent régulièrement, ou des effectifs plus importants, on va essayer de faire une convention avec le propriétaire, on ne fait pas dans son dos, et puis on va faire ce qu'on appelle un aménagement physique. Alors soit c'est des barrières pour ne pas accéder à la grotte, pour pas que les gens viennent faire des fiestas dedans et puis dégrader
Des fois c'est juste par sécurité. Il y a des communes en fait qui ont peur qu'il y ait des ados, des jeunes qui aillent dedans et qu'il y ait un bloc qui tombe, et des fois en fait pendant certaines années c'était on va boucher la grotte, c'est trop dangereux, on veut pas qu'il y ait d'accident, et en fait là on fait hop hop, il y a d'autres solutions, on peut mettre une grille par exemple qui permet aux chauves-souris d'hiberner mais de pas laisser passer les humains.
Alors donc on met des assez grosses grilles, parce que malheureusement il y a des fois des dégradations, avec un portillon pour que nous on puisse rentrer, ou de temps en temps avec des groupes qui le demandent, on va la visiter, mais pas en période d'hibernation. À ce moment-là on le fait plutôt en période estivale, au moment où les chauves-souris, par définition, elles vont chercher des lieux plus chauds, parce qu'en hiver elles cherchent de la fraîcheur, voire du froid, une température un peu aux alentours de 5-10 degrés, et puis qui est très humide, mais en été, quand elles vont avoir leurs petits, comme vous nous l'avez expliqué, elles vont chercher des lieux beaucoup plus chauds, donc des greniers, des espaces,
des combles de château,
etc.
Et d'ailleurs, c'est pas facile à trouver, j'imagine, les colonies de chauves-souris l'été et tout ça. Il y a peut-être possibilité, il y a peut-être des techniques pour réussir à les trouver. On passe sur un autre type beaucoup plus compliqué, comme tu l'expliquais, de recherche et de techniques.
Oui, alors là, c'est très différent. Les prospections en hiver, on est avec ses yeux, son casque, parce qu'effectivement, tu as bien fait de me rappeler, les grottes, c'est aussi un lieu dangereux. On est en Normandie, on est sur du calcaire, et donc des fois, le plafond s'effondre. Donc il faut être très, 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 très vigilant, toujours prévenir avant d'aller quelque part. Enfin, on se prévient entre nous, au niveau du GMN, et du coup, on bouche les endroits qui sont... Pour ça, on ne conseille jamais aux gens d'aller trop dans les grottes, parce qu'il y a le dérangement des chauves-souris, mais il y a l'aspect sécurité, ça tu fais bien de le rappeler. Donc on est avec nos casques, nos lampes, on fait très attention de ne pas déranger, comme vous avec Oscar tout à l'heure, on parle pas fort, on reste pas longtemps pour ne pas réchauffer. Notre corps, il est à 37 degrés, la chauve-souris, elle va être entre 5 et 10. Si jamais on fait monter la température de la grotte, on réveille, et comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Alors, ça c'est la technique pour l'hiver, Et puis, On a un petit livre qui explique qu'il faut regarder les oreilles, il faut regarder la forme du nez, il faut regarder la couleur du pelage, il faut regarder la longueur de la patte, la griffe, etc. On essaye de voir ça. Alors, quand elles sont planquées dans une fissure, c'est quand même compliqué.
C'est pas
mais
toujours
ça,
simple.
On l'apprend aux bénévoles qui veulent. Hein. On ne devient pas connaisseur de chauves-souris du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris plusieurs années. On apprend toujours. Pour l'été, c'est différent. Parce que, comme je le disais, comme vous l'avez dit, les chauves-souris, elles volent. Et donc, du coup, on a un petit... Alors, soit on le fait en regardant à la tombée de la nuit, mais très vite, dès qu'il fait nuit, on ne voit plus rien. Donc, il faut avoir un détecteur ultrason. Et avec un détecteur ultrason, et là, c'est quand même des techniques qui demandent plus d'investissement en temps, en informatique, etc., pour capter des séquences, les analyser, et voir de quelle espèce on peut avoir affaire. Et alors à ce moment-là, de proche en proche, on arrive à arriver vers l'endroit où les femelles ou les mâles se regroupent dans la colonie. Alors ça va être un grenier de maison, ça va être un grenier d'église, un château. Des fois, ça va être sous un pont. On a des fissures sous les ponts, par exemple. Elles peuvent être là, voilà. Ou dans des petites caves aussi, tranquilles, voilà, un peu plus chaudes, parce qu'en été, elles vont chercher de la chaleur.
Ouais, ça diffère d'une espèce à l'autre.
Voilà, c'est ça. Et parfois, les pipistrelles, on en parlait, elles sont derrière les volets, mais des fois, elles sont entre les sous-toitures des maisons, dans des pavillons très récents, de 15, 20, 30 ans. Et les gens les voient sortir à la file comme ça, donc ils nous préviennent et ils nous disent « Ah, j'ai des chauves-souris ». Il y a toujours un petit peu de peur, ils se demandent « etc. » Alors, pas trop qu'elles se prennent dans les cheveux, mais qu'elles apportent des maladies. En Normandie, par rapport à ça, si on les manipule pas, ou quand on les attrape parce qu'elles sont malades, ou enfin, qu'elles viennent à tomber devant la maison...
Ou qu'un sale chat a attrapé
voilà,
une chauve-souris.
Voilà, qu'un chat ou autre animal, ou alors simplement qu'elles ont eu un souci à la naissance, pas à la naissance, mais au début du vol. Hein.
Alex, il est chat-phobe.
Du coup, elle ne véhicule pas la rage en Normandie. Il n'y a pas de cas de rage avéré. On récupère tous les cadavres. Au GMN, on récupère tous les cadavres de chauves-souris mortes ou blessées, etc. Et on les envoie en examen à l'ANSES, qui surveille les aspects sanitaires. Et il n'y a pas de cas de rage avéré et autres. Mais on conseille toujours aux gens de prendre un chiffon ou des gants pour les manipuler, de jamais les serrer, bien entendu, si elles sont vivantes. Hein. Et puis de nous prévenir pour qu'on vienne les...
Que pour ne pas nous transmettre, parce que ça peut, on a toujours peur que ce soit la chauve-souris qui nous transmette des maladies, mais nous on peut aussi transmettre des maladies aux animaux, donc effectivement mettre des gants c'est peut-être le moment aussi de parler, si un jour vous avez des chauves-souris chez vous, donc vous pouvez contacter l'association, on fera le lien avec le GMN, vous pouvez appeler le GMN, mais sinon si vous vous rappelez plus tout ça, vous tapez SOS chauve-souris sur internet et vous trouverez un numéro, et après il y a tout un réseau de bénévoles, j'en fais partie, Pascal en fait partie, où en fait on va des fois juste rassurer les gens en disant c'est juste une chauve-souris qui a pas retrouvé son chemin, c'est bon, et des fois on apporte des conseils et on essaye dans la mesure du possible de conseiller et de réussir à faire que les chauves-souris et les humains puissent cohabiter quoi.
Oui, c'est ça. Elles sont souvent dans les maisons en été, et c'est vrai que la cohabitation c'est un sujet plus délicat, voilà. Cas, voilà, je pense qu'on a déjà pas mal débroussaillé le...
Ah bah merci, parce que c'est super. Mais
c'est... Bon, il y a encore plein de choses à dire, on peut capturer il y a des captures qui sont faites avec des filets, on leur met des petits émetteurs pour les chercher avec des radiopistages, mais on réinvitera Pascal et on fera une émission spéciale chauve-souris pour l'été, à la limite,
pourquoi pas, voilà.
Peut-être une petite pause musicale maintenant.
Tout est dans le mouvement, tout est dans l'élan, discipline, discipline, mindset de Shaolin, back dans le game, juice dans le mille, mouvement, mouvement, tout est dans le mouvement, tout est dans l'élan, discipline, discipline, mindset de Shaolin, back dans le game, juice dans le mille, j'entre sur la scène, je fais le mouvement, si je recule c'est pour prendre de l'élan, c'est ma vie, c'est pas un test, faut que j'aille au bout du geste, dans l'industrie c'est la guerre, à chaque disque on pousse ça, toutes mes lyrics à la mille, à Jovovich, cours et tracé au combat, regarde, sourire à la caméra, position fight, Tekken style, position fight, je fais les mouvements, tout est dans le mouvement, tout est dans l'élan, discipline, discipline, mindset de Shaolin, back dans le game, juice dans le mille, mouvement, mouvement, tout est dans le mouvement, tout est dans l'élan, discipline, discipline, mindset de Shaolin, back dans le game, juice dans le mille. S'arrête, je reste en mouvement. Je vends pas mon âme, je mets le supplément. on me jette dans l'arène. Je me transforme en bête de scène. J'ai trouvé des armes en ouvrant des livres. Ma plume c'est mon gun, des pentes c'est ma bible. Parole de power dans la bouche d'une fille. Majeur en l'air sur tous les coms de débiles. Position fight, Tekken style. Position fight, je fais les mouvements. Mouvement, mouvement. Tout est dans le mouvement, tout est dans l'élan. Et discipline, discipline. Mindset de Shaolin, back dans le game, juice dans le mille. Mouvement, mouvement. Tout est dans le mouvement, tout est dans l'élan. Et discipline, discipline. Mindset de Shaolin, back dans le game, juice dans le mille.
C'était Mouvement de Suzanne.
Ça se passe près de chez vous !
Alors, les sorties de ce mois-ci, bah d'abord, tout d'abord avec la LPO. Comme le mois dernier, il y a une formation tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc le 12 février, il y a une formation organisée par la LPO. Et comme la dernière fois, on vous invite à nous rejoindre avec notre association Naturellement Reuilly. On est relais de cette formation de la LPO Normandie à la médiathèque d'Evreux. Donc rendez-vous le 12 février à 18h30 à la médiathèque d'Evreux pour une formation sur les rapaces nocturnes.
Et moi, dans le cadre de Découvrez la nature dans l'heure, il y a le groupe ornithologique normand qui propose une découverte de la réserve ornithologique à Pause le 14 février à 10h. Nous, avec l'association Naturellement Reuilly, on vous propose d'observer les oiseaux d'eau en hiver à Breteuil-sur-Iton le 18 février à 14h. Tout ça, c'est sur des espaces naturels sensibles du département. Et il faut s'inscrire sur lanaturedansl'heure.fr. Pascal, tu voulais faire un petit
tour pour des stages. Je vais dire donc le 31 janvier, 1er février, pour ceux qui habitent du côté du secteur de la vallée de la Rille, il y a les comptages chauves-souris donc de la vallée de la Rille, hein, avec le gros site de Beaumont-le-Roger. Et ben, du coup, si vous voulez vous inscrire, il faut contacter rapidement le groupe mammalogique normand. Et puis, à partir du 15 février jusqu'au 22 février, et ben, c'est les grands comptages pour le centre de l'Eure. Donc là, vous pouvez me contacter ou contacter Alexandre. Hein, je pense qu'il y aura nos coordonnées sur
le site. Vous pouvez nous contacter bien naturellement, on fera le lien.
Moi, je me suis inscrit auprès d'Alex pour la sortie du samedi.
Mais c'est toute la semaine et le week-end. Donc pendant pratiquement 10 jours, on fait ça non-stop dans tout le secteur. Voilà.
On va être dans les grottes.
C'est ça. Donc vous retrouverez toutes les infos des sorties sur le site de l'émission. Et on fait encore un petit appel. Si vous voulez faire la promotion de vos sorties nature, contactez-nous. On se fera un plaisir de les relayer lors de l'émission.
Alors ce mois-ci, c'est un mois qui est court, hein, le mois de février. Et puis en plus, il y a les vacances, donc il n'y a pas beaucoup de sorties. Mais il y a toujours des sorties. Vous pouvez chacun vous organiser votre propre sortie. Par exemple, sur le site de la LPO Normandie, si vous y allez, il y a une description des sentiers des oiseaux. Donc vous pouvez avoir un petit onglet dans le site. On le mettra sur notre podcast. Et puis vous pourrez par exemple faire un petit tour dans le village du Val David. Il y a une petite boucle qui est très facile et qui peut se faire au moment où vous voulez.
Et ça va être le moment du conseil de lecture.
Alors là, c'est un corbeau qui nous faisait l'annonce, mais c'est la pie bavarde. La rubrique s'appelle la pie bavarde. Alors la pie bavarde est bien sûr sur Radio Principe Actif, dans l'émission Radio Biodive, et elle vous conseille en ce mois de janvier la lecture du journal le plus lu dans les terriers.
La hulotte, bien sûr.
Ah, t'as trouvé, Alex. Bah oui, il s'agit d'une petite encyclopédie des champs et des bois. Ses dimensions sont modestes, 15 cm par 22 cm et une quarantaine de pages. C'est une revue qui vous raconte la vie des animaux sauvages, des arbres et des fleurs d'Europe. Elle est dessinée et rédigée depuis plus de 50 ans dans un petit village des Ardennes, Boutaubois, par une petite équipe de 6 personnes autour de son créateur Pierre Déon. C'est amusant à lire, truffé d'anecdotes incroyables, mais le tout est très rigoureusement documenté. La Hulotte est un journal indépendant, c'est-à-dire sans publicité, financé uniquement par les abonnements. Le 7 janvier, un collègue de La Hulotte, un journal également indépendant, Le Canard Enchaîné, lui a rendu hommage. Voilà ce que dit Le Canard Enchaîné. Chaque animal que nous présente depuis si longtemps la Hulotte a ses caractéristiques, à la fois très proches, car vivant sur nos territoires, et méconnus,